Merci beaucoup. Parlons de santé mentale et des Autochtones. On a eu, bien sûr, le cas de Wendake cette semaine. On n'entrera pas dans le détail. Il y a deux versions. La mère qui dit qu'elle a que son fils a demandé des soins. Réponse du CIS là-bas, c'est de dire il se présentait pas au rendez-vous. Il y avait un suivi, mais il n'était pas toujours là. Puis bon, le point, c'est pas ça. Le point, c'est d'essayer de comprendre la dynamique dans le système de santé des services offerts aux populations autochtones. Il y a évidemment une barrière culturelle importante. Il y a tout le facteur de la distance. J'en parle ce matin avec Dr Marie-Ève Coton, qui est médecin psychiatre et qui travaille beaucoup avec les Autochtones. Elle revient d'ailleurs tout juste d'une période où elle passe deux semaines, chaque deux mois, donc, avec les Autochtones. Dr Coton, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, là, si je vous demande un commentaire général en partant, là, sur les relations entre le système de santé, puis je vais parler de votre spécialité, là, la psychiatrie, oui, santé mentale, et les Autochtones. Quelles sont les embûches? Où ça se passe? Comment? C'est quoi les difficultés?
Bien, il y en a plusieurs. Il y a effectivement des régions qui sont plus éloignées, où les Autochtones demeurent, donc il y a des enjeux de donner des services en région très éloignées. Il y a les enjeux de racisme qu'on a vu très clairement dans l'affaire Joyce et Chacoan, donc qui ne sont pas des événements isolés. Moi, j'étais au Nunavik quand l'affaire a éclaté dans les médias. Et c'était très évident pour moi, chez mes collègues et chez mes patients, la vague de retraumatisation et d'angoisse que ça crée, parce que beaucoup de gens ont des souvenirs similaires d'avoir été maltraités, que ce soit dans l'institution de la santé ou dans une autre institution, ou se mettent à avoir très peur que ça arrive à leurs enfants, à leurs parents, etc. Donc, il y a ça également. Il y a tous les enjeux aussi du passé colonial où l'institution de la santé a aussi aussi associé à des blessures dans l'histoire coloniale, comme par exemple les gens qui étaient retirés de leur communauté pour être traités pour la tuberculose. Donc, il y a plusieurs comme ça, barrières ou défis supplémentaires dans le fait de donner des services de santé mentale aux Autochtones.
Mais la réaction, là, parce qu'on regarde, bon, Joliette, on comprend là qu'il y a cet événement qui fait l'objet d'enquête, mais est-ce que vous diriez que les Autochtones sont victimes de racisme fréquemment dans le réseau de la santé de la part du personnel, par exemple?
Bien, fréquemment, tu sais, ça dépend toujours de ce qu'on entend, mais ce que je dirais, par contre, c'est pas du tout un événement isolé. Moi, je trouve que oui, c'est fréquemment dans le sens où les cas sont... L'impact de ça est grave. C'est quand les gens consultent dans le système de santé, ils sont à leur plus vulnérables. Et les expériences de racisme, d'après ce que moi, mes patients m'ont témoigné, mes collègues à travers les années, c'est des expériences qui sont pas rares. Donc, ça fait partie du bagage des gens. Tu sais, dans les familles, il y en a des histoires comme ça où on a eu des commentaires désobligeants. Pas juste dans l'institution de la santé, là, en général, dans les institutions qui sont où la rencontre interculturelle a lieu. Donc, c'est pas quelque chose. Moi, j'étais contente de la tragédie de Joyce et Chacoan. Évidemment, c'était épouvantable comme événement, mais en espérant des bienfaits de la prise de conscience de la population que ça a peut-être pu apporter, parce que il y a un problème à ce niveau-là. Moi, des commentaires racistes ou désobligeants dans le système de la santé envers les Autochtones, j'en ai aussi entendu moi-même.
Vous soulever un autre point que j'ai entendu de vos collègues médecins qui disent que avec certains Autochtones, c'est extrêmement difficile d'initier un traitement, même quand il est nécessaire, là, même dans des cas là, où c'est important. C'est difficile de faire le suivi. Il y a comme une méfiance face à la médecine.
À la médecine, je vous dirais que mon expérience, elle est pas tant, la méfiance est pas tant envers la médecine, bien que, oui, parfois, ça peut arriver qu'il y ait des croyances culturelles qui puissent être différentes. Par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'un patient et une famille me demandent de pas trop monter des antipsychotiques, parce que même si ils jugeaient qu'il fallait diminuer les hallucinations du patient, quand il en gardait un petit peu, puis ça l'empêchait pas de fonctionner, il voyait ça plutôt comme des dons chamaniques. Donc, ça peut arriver des fois qu'il y ait comme ça des conceptions différentes de la maladie, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la méfiance n'était pas tant dans la science ou dans ce que la médecine a à proposer que dans les individus qui portent cette science-là, et de savoir, de se demander est-ce que ces individus-là ont globalement un certain respect de ma personne ou une certaine considération pour ma personne, ou si ils ont des préjugés qui vont finalement faire en sorte que je ne serai pas bien traitée. Donc, moi, j'ai plus, dans mon expérience, j'ai plus vu la méfiance envers les individus. Et c'est sûr qu'après des expériences comme ça, quand les gens en ont eu quelques-unes de très négatives, ben la confiance est à rebâtir. Et une confiance, c'est plus dur à rebâtir qu'à détruire en général. Donc,
Mais c'est sûr aussi que dans votre pratique, vous êtes confronté à des réalités comme la violence, des problèmes oui. d'alcool, consommation de drogue également dans ces communautés.
Oui, ça c'est sûr, mais dans les communautés blanches aussi, on fait face à ces problèmes-là. Dans certaines communautés autochtones, ils peuvent être surreprésentés, c'est-à-dire plus la prévalence est plus élevée. L'erreur du stéréotype ou du préjugé par rapport à ça, c'est d'attribuer ça à la nature culturelle des Autochtones, alors que si on fait des corrections avec les paramètres de pauvreté et d'exposition à la violence, ben par nature, ces gens-là sont pas plus violents ou sont pas plus de problèmes de consommation. C'est que toute population pauvre ou traumatisée comme ça va développer ces problèmes de santé mentale-là. Donc c'est aussi des problèmes qui sont très prévalents dans les populations blanches qu'on soigne. Donc c'est pas spécifique aux Autochtones.
C'est sûr. Non, c'est sûr. Mais c'est l'éloignement, le fait que ce sont des communautés, comme vous le dites, qui vivent dans la pauvreté, ça vient comme alimenter ces phénomènes-là.
Oui, parce que les indicateurs de socio-économiques sont des déterminants importants de la santé. On sait que dans les populations plus pauvres, les problèmes de santé physique et les problèmes de santé mentaux vont être plus prévalents chez les populations qui ont été plus exposées à la violence et à des traumatismes aussi. Donc, pour certaines communautés autochtones, en fait, si on parle des traumatismes historiques, toutes les communautés autochtones ont ces facteurs de risque-là.
Merci beaucoup, Dr Coton.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir, Dr Marie-Ève Coton, qui est médecin psychiatre.